This is a flying saucer.
Close Encounters of the Third Kind. The motion picture that reminded us. We are not alone.
À qui les extraterrestres s'adresseraient s'ils venaient sur Terre? J'avais fini par en conclure que c'était aux vaches. Les cornes les relient au cosmos, donc je me suis dit peut-être qu'ils vont se laisser, en effet. Et puis, un de mes amis qui lit mon texte m'a dit, statistiquement, si les extraterrestres viennent, ils vont tomber d'abord dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup plus d'étendue d'eau que de terre. Donc, c'est pas les vaches, ce serait au contraire, soit un mammifère marin, soit un poisson, soit un plancton, bref. On a le choix, mais je suis sûre qu'ils auraient de bonnes raisons de surtout ne pas s'adresser à nous. Nous ne sommes pas très sympathiques.
Je crois que nous devons essayer de se comprendre les uns les autres, de se connaître, j'en suis sûr.
Les hommes vous ont attaqué parce qu'ils ont eu peur, c'est la seule raison.
Mais je vous en prie, ne vous excusez pas.
Mais dans la galaxie, l'étendue de la partie dense de notre galaxie, nous on est plutôt sur la périphérie déjà, on va dire 25 000 années-lumière entre nous et le centre. Mais en gros, l'âge de l'univers, lui, est relativement bien connu, c'est 14 milliards d'années. L'âge de la Terre, 4,5 milliards d'années. Voilà. Donc ça, c'est le décor est planté avec les âges.
8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut.
D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde.
Docteur Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Il nous faut des réponses dès que possible.
Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent.
Je sais pourquoi ils sont là.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices des rencontres de Pétrarque. Et à vous, spectateurs et spectatrices de la Cour Soulages du rectorat de Montpellier, pour ce dernier temps de notre semaine consacrée aux révolutions de l'intelligence, en partenariat cette année avec le journal Midi Libre. Et pour cette cinquième émission, nous avons eu envie de sortir de nous-mêmes, peut-être pour mieux y revenir, qui sait, en tournant nos regards vers les étoiles. Nous avons réuni deux grands scientifiques et un grand romancier pour discuter des avancées de la recherche et des trouvailles de l'imaginaire et pour tenter de répondre à cette question encore insoluble mais qui continue de tarauder notre intelligence humaine. L'intelligence extraterrestre existe-t-elle? Pour répondre à cette question, ils sont donc trois. Jean-Pierre Bibring à mes côtés, bonjour à vous.
Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités.
Vous êtes astrophysicien, vous êtes professeur à l'Université Paris-Sud à Orsay, spécialiste du système solaire. Vous avez notamment été responsable de missions scientifiques comme la sonde Rosetta en 2004 avec l'Agence spatiale européenne. Vous êtes l'auteur d'un livre récent qui s'intitule « Seul dans l'univers, il n'y a pas de point d'interrogation ». De la diversité des mondes à l'unicité de la vie, c'est paru chez Odile Jacob. Depuis l'espace californien, est avec nous Nathalie Cabrol. Bonjour Nathalie Cabrol.
Bonjour.
Vous êtes astrobiologiste.
Jean-Pierre, bonjour.
Vous pouvez dire bonjour au public qui vous entend.
Oui, bonjour Nathalie.
Bonjour.
Vous êtes astrobiologiste, vous êtes également exploratrice, vous dirigez le centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI. L'Institut SETI, c'est un acronyme anglais qui signifie « recherche d'une vie extraterrestre intelligente ». Vous avez participé à plusieurs missions vous-même pour la NASA sur Mars. Vous êtes l'autrice de deux livres qui ont fait date, il y a quelques années et cette année. Voyage aux frontières de la vie pour le premier, à l'aube de nouveaux horizons. Les deux ont paru aux éditions du Seuil. Et puis ici aussi à Montpellier, Laurent Jeunefort, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes une figure de la littérature de science-fiction, vous êtes l'auteur d'une trentaine de romans. Vous avez notamment créé ce que vous avez appelé des livres univers, le cycle d'Omal, dont on reparlera, la série de Vetrine. Vous êtes lauréat de nombreux prix et vous êtes également un très fin connaisseur de la littérature de science-fiction puisque vous avez soutenu une thèse sur la question. Là aussi, nous y reviendrons. Je voudrais qu'on commence, une fois n'est pas coutume, par deux informations récentes, puisque notre question c'est l'intelligence extraterrestre existe-t-elle? Pas seulement la vie, bien entendu, nous allons parler de la vie extraterrestre, peut-être même de la vie extraterrestre intelligente. Mais il y a un mois, fin mai 2023, la NASA a tenu pour la première fois une réunion publique sur les ovnis, qu'elle a appelé des phénomènes anormaux non identifiés, qu'elle a tenu à prendre très au sérieux. Et début 2023, je crois que c'était en février, des chercheurs de l'Université de Toronto et de l'Institut SETI, où travaillait Nathalie Cabrol, ont expliqué avoir découvert 8 signaux prometteurs d'intelligence extraterrestre. D'où ma question un peu provocatrice, volontairement évidemment. Assiste-t-on à une révolution de l'intelligence extraterrestre ? Autrement dit, est-ce que ça y est, on est sur le point d'en trouver ? Ou bien des informations comme celle-ci, il y en a tout le temps ? Nathalie Cabrol.
Je dirais que le débat avec entre la NASA, le Pentagone, etc., il y a effectivement des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer, et c'est pour ça qu'ils sont appelés inexpliqués. Ça ne veut pas dire parce que la NASA et le Pentagone sont ensemble que c'est extraterrestre, mais enfin, ça fait partie des hypothèses, et ces dossiers sont encore étudiés à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, des chercheurs ont été appelés. Pour une fois, pour discuter de l'évidence en question. Mais pour le moment, en tout cas pour ce que j'en sais, c'est que il n'y a pas véritablement quelque chose qui nous dise qu'on a affaire à une intelligence extraterrestre. Il n'y a pas non plus d'évidence contraire, si vous voulez, mais ça reste encore très difficile à juger. Les hypothèses, c'est que ça peut être soit des phénomènes physiques non expliqués encore. Et personnellement, je pense qu'avec une planète qui change, on va avoir pas mal de phénomènes physiques qu'on a du mal à expliquer dans les temps qui viennent. Mais ça peut être aussi simplement des technologies qui font partie de secrets militaires. Et c'est peut-être aussi ça qui inquiétait le Pentagone. Et puis, il y a l'hypothèse de civilisation extraterrestre. Pourquoi pas ? J'avoue que je serais la première ravie si c'était le cas.
Vous dites bien, Jean-Pierre Bibring, de votre côté, dès le début de votre livre, que rien scientifiquement ne prouve ou ne permet de conclure ni à l'existence d'extraterrestres, ni à leur non-existence. Que tout ça, ça relève de la croyance. Est-ce que ces informations, c'est aussi un mystère bien entretenu ou quelque chose qui fait plaisir à nos esprits avides de savoir qu'on n'est pas tout seul ?
Je pense que c'est un bon mélange des deux. Très souvent, quand je fais des débats de ce type-là, et encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité à celui-ci, je commence par poser la question aux gens de savoir, est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre ? Et je suis toujours très surpris du fait qu'à cette question-là, il y a plus de 90%, 98%, je ne vais pas le faire là, bien sûr, mais de gens qui disent oui. Or, il n'y a aucune observation qui le dise, de même d'ailleurs qu'il n'y a aucune observation qui dit le contraire. Si je dis ça, c'est pour bien montrer la différence entre une croyance profonde qu'on peut avoir à un moment donné, qui est le fruit d'une construction historique, sociale, politique, idéologique, théologique, et puis une approche scientifique qui met une observation en relation avec une représentation que l'on se fait qui n'a de sens que si on peut la valider. C'est-à-dire que si à partir de cette observation, genre aujourd'hui il fait beau, le ciel est bleu, on fait une prédiction. Et si cette prédiction débouche sur une observation qui va soit confirmer, soit infirmer, eh ben on va progresser dans un sens comme dans l'autre. Et je pense que cette question de la vie extraterrestre, dont on va parler beaucoup aujourd'hui, bien sûr, et c'est passionnant en soi, elle relève beaucoup de cela, beaucoup plus du dogme que de l'approche scientifique. On est juste aujourd'hui au moment où s'opère cette transition pour commencer à mettre en termes scientifiques cette question de savoir est-ce que ça a un sens de penser qu'il y a de la vie ailleurs, sans parler même d'extraterrestres ailleurs. S'ils sont extraterrestres, ils sont ailleurs, mais est-ce qu'il en existe ? Et quelque part, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qui se fait qu'aujourd'hui, de plus en plus peut-être, en tout cas en France et aux États-Unis, on souhaite avoir des réponses positives à cette question-là, alors que quelque part, il n'y en a pas. Et que, par ailleurs, et c'est peut-être un des points sur lesquels j'aimerais démarrer, c'est que lorsqu'on fait une recherche, d'une manière générale, scientifique, on va apprendre quelque chose, on se pose une question, et on va mettre en place tout un tas de moyens pour essayer de répondre à cette question. Et souvent, ce que je dis, c'est qu'une bonne mission scientifique, c'est une mission qui va montrer qu'il n'y a pas de réponse à cette question, parce que la question était mal posée, et que cette recherche va déboucher sur plus de nouvelles questions que de réponses. En d'autres termes, le volet de ce qu'on ne sait pas augmente en même temps que la connaissance progresse. Ça, c'est important, bien sûr. Il ne faut pas penser qu'on ne sait, on en sait toujours moins. Non, on en sait toujours de plus en plus. Le corpus de la connaissance augmente. Mais en même temps, le corpus des questions ouvertes augmente. Ce qui revient à dire que il faut que notre cerveau s'habitue, et on en parlera probablement par rapport aux grands défis de ce siècle, à vivre avec plus de questions que de réponses. Et une réponse qui ne soit pas validable, qui soit donc essentiellement irrationnelle, ne répond pas à la question. Mais c'est vrai que pour des constructions sociales, chez nous, et c'est pas le cas dans toutes les sociétés, on préfère une réponse irrationnelle à pas de réponse.
Vous n'avez pas posé la question, pour l'instant en tout cas, au public qui nous écoute et qui nous regarde, Jean-Pierre Bibring, mais on peut la poser à Laurent Jeunefort. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse de l'existence d'une vie extraterrestre ?
Alors en fait, l'existence ou la non-existence des extraterrestres, ou des, je les appelle les aliens, c'est plus simple.
C'est le terme anglais, non ?
C'est le terme anglais, oui. Mais finalement,
Vous l'avez adopté ?
Je l'ai adopté. En fait, ça, c'est du domaine scientifique. Ça relève de la réalité, le problème de l'existence ou la non-existence. Moi, je suis romancier. Donc, pour moi, un extraterrestre, c'est une construction philosophique et esthétique. Et c'est à ce titre que ça m'intéresse. Donc, je n'ai pas d'opinion. J'ai une opinion, mais c'est celle d'un citoyen, pas d'un spécialiste du tout. Et je pourrais jamais, dire... Oui. Le fait que j'y crois ou que j'y crois pas, ça n'impacte pas mon activité de romancier de science-fiction. Je traite l'extraterrestre comme une hypothèse de pensée qui est tout aussi valide que l'IA, que les voitures volantes ou ce que vous voulez.
C'est pas parce que vous avez envie d'y croire ?
Ouais, peut-être quand même. Sinon, je serais peut-être pas auteur de SF.
D'autant que dans
j'adorerais, en fait.
Dans la série Omal, vous avez créé, je crois, vous avez créé un terme qui s'appelle l'Edfrag.
Oui.
Qui est ce besoin commun à tout être intelligent de partager avec des êtres très différents des choses, parce que comme ça, ça étend notre champ de conscience.
Oui, voilà, c'est une manière de porter sur le champ philosophique cette espèce de besoin de communiquer et d'en faire presque une constante cosmologique, je dirais. C'est-à-dire aller vers l'autre. Et l'extraterrestre, c'est une bonne image d'une altérité assez radicale. Parce que c'est une altérité. Il y a plusieurs figures de l'altérité dans la modernité. Il y a le mutant, il y a le robot, donc avec des IA à l'intérieur des robots. Et ça, ce sont des images d'une altérité, d'une intelligence ou d'une nature autre que nous. Mais c'est une altérité qui procède de nous quand même. Le mutant, il vient de l'évolution, de notre évolution. Le robot, on l'a fabriqué. Donc c'est une altérité, mais qui est quand même reliée à nous. L'alien n'est pas relié à nous. Et c'est ça qui est passionnant dans cette figure. On est dans une altérité vraiment radicale avec l'alien.
Je m'adresse à vous d'abord, Laurent Jeunefort, comme le spécialiste de la littérature, le docteur en littérature que vous êtes. Est-ce que les aliens, pour reprendre votre terme, ont toujours été intelligents ?
Oui. En fait, on a toujours cherché, depuis la problématique de la pluralité des mondes habités, on s'est toujours projeté. C'est une manière de se projeter dans les étoiles. L'univers est d'autant plus intéressant quand on le peuple. En fait, en réalité, il est plus, il résonne plus en nous quand on pense qu'il y a quelque chose là-haut, autre que de la matière et du vide. Et là, on peut projeter nos propres peurs, nos propres angoisses, nos propres aspirations aussi. Et c'est pour ça que dans certaines imageries populaires de l'alien, de l'extraterrestre, il y a la figure de l'ange, la figure du démon, des figures religieuses entre guillemets qu'on a laïcisées, qu'on a scientificisées. Le terme n'existe pas. Mais pour en faire en fait quelque chose qui nous parle à nous en fait. Voilà. Donc l'alien, il est porteur de ça et on le charge de beaucoup de choses, de beaucoup de symboles, de beaucoup de sens qu'on voudrait. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand il dit ce que vous croyez, ce que vous avez envie, ça veut bien dire que l'alien, on a envie de projeter des choses dessus, désirables ou au contraire qui font peur.
Oui, souvent ça fait peur. En tous les cas, pendant longtemps, on a eu peur d'une invasion des extraterrestres. Peut-être un peu moins maintenant, mais il y a presque quelque chose comme de l'ordre de l'intelligence artificielle qui fait peur aussi, et en même temps on se projette dans ces fantasmes. Jean-Pierre Bibring.
Oui, tant qu'il s'agit de construire par fiction un monde autre, qu'on appelle le monde extraterrestre, alien, peu importe, on n'a rien contre. Je veux dire, on peut imaginer, effectivement, c'est le romancier qui crée des personnages comme cela. C'est distinct de ce qui était posé comme question au démarrage, à savoir, est-ce que certaines des observations aujourd'hui traduisent l'existence de ce monde-là? Et c'est là-dessus que moi j'intervenais, sur cette question non pas du bien fondé de créer de l'imaginaire, des obsessions ou des réalités purement imaginaires, si une réalité imaginaire veut dire quelque chose. Non, là, la question, ce que je voulais dire, c'est que il y a et il y aura de plus en plus de phénomènes non expliqués, parce que on va faire des analyses de plus en plus fines, on aura chacun d'entre nous des moyens de plus en plus précis pour regarder des choses, et de plus en plus, on aura des choses qu'on ne comprendra pas tout de suite. Il y a déjà beaucoup de gens qui font des dépositions en gendarmerie pour dire « j'ai vu quelque chose qui a fait ceci et cela ». On n'en parle jamais parce que la personne qui a vu ce signal, il ne sait pas ce que c'était, mais il y a énormément de ballons-sondes pour toute la météo, il y a énormément de choses qu'on envoie dans l'espace qui dérivent dans le temps et qui dérivent dans les vents, que les gens ne connaissent pas, qui n'ont pas d'ailleurs toujours été effectivement même mentionnées. On faisait allusion tout à l'heure aux affaires militaires qui sont l'essentiel de ce qui vole actuellement dans l'atmosphère. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un ne le voit pas, qu'il est non identifié pour la personne qui l'a vu, qu'il est fondamentalement non identifié. Mais il y a aussi, effectivement, des phénomènes, des essaims d'insectes à haute altitude qui peuvent, dans certaines conditions, refléter de la lumière, qui peuvent voyager dans un sens puis dans l'autre, etc., d'une manière qui paraît coordonnée, qui peut être coordonnée, qu'on n'explique pas forcément. Mais de l'observation de quelque chose qu'on n'a pas expliqué à la traduction, à l'explicitation de cela comme provenant de l'extérieur, là, il y a un pas à faire. Et le pas est, en physique en général, facile à expliquer. C'est réellement non possible de venir de l'extérieur, surtout de très loin, donc à très grande vitesse, sinon ça n'a pas de sens, et arriver au repos chez nous sans que ça se voie. Tout simplement parce que pour arriver au repos, il faut freiner, il faut perdre de l'énergie. C'est extraordinairement compliqué, même nous qui connaissons très bien notre atmosphère, quand on envoie quelque chose dans l'espace et qu'on veut le récupérer, si on ne connaît pas avec une énorme finesse les propriétés évolutives de notre atmosphère, le truc il se détruit en arrivant, c'est extrêmement difficile. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font dire qu'effectivement, ce qui est intéressant dans l'histoire des extraterrestres, c'est pas leur réalité au sens d'une soucoupe volante, comme on le disait il y a quelques temps, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est amené à se poser ce genre de questions.
Et en particulier vous, astrophysicien, et vous tentez d'y répondre dans votre dernier ouvrage, je disais que le titre de votre livre ne comportait pas de point d'interrogation, seul dans l'univers, votre thèse elle est assez claire. Hein. Vous dites que tout semble montrer que notre planète, qui est née d'une longue chaîne d'accidents, d'événements fortuits, peut-être même pourrait-on parler de hasard, notre Terre, elle est unique en son genre, et le vivant, il est terrien et rien d'autre.
Alors, cette question maintenant du changement des concepts eux-mêmes et des paradigmes eux-mêmes sur ce que c'est qu'une planète, sur ce que c'est qu'une Terre, sur ce que nous sommes, il est directement lié à l'approfondissement des mesures que l'on peut faire. Je prends deux exemples. Le premier, c'est les humains que nous sommes. Nous sommes pas loin de 10 milliards d'individus. Personne n'a fait le calcul pour expliquer, justifier qu'effectivement, il n'y en a pas d'autres semblables. Et on sait qu'on pourrait faire des milliards de milliards de milliards d'êtres humains au sens d'une procréation, on n'en aura jamais deux pareils. Il n'y aura jamais deux Caroline Brouet, et c'est ça la richesse de la chose d'ailleurs. Les seules personnes qui ont envisagé qu'il y ait la même chose ailleurs que sur Terre, c'est des gens qui ont postulé que l'univers était infini. Le premier dont on a la source, c'est Épicure, et certainement il y en a eu d'autres avant, qui explique qu'effectivement, si l'univers est infini, d'ailleurs c'est remarquable de penser que ce monsieur, en observant le ciel, il avait jamais que 1500 points brillants, il estimait que le cosmos pouvait aller jusqu'à l'infini. Et il disait cette chose qui peut paraître triviale, mais qui est fondamentale. Si l'univers est infini, eh bien, on peut imaginer qu'il y a quelqu'un qui aujourd'hui dit exactement les mêmes paroles que je suis en train de faire, et cette personne au deuxième rang qui va sourire de la même manière. Ça a été repris d'ailleurs à la fin du XVIe siècle par un monsieur qui s'appelle Giordano Bruno, qui pour lui aussi, en rupture avec ce que le créationnisme avait imposé, a aussi pensé que l'univers était infini. Et c'est de là qu'est venue cette idée de la pluralité des mondes, qui ne peut pas ne pas y avoir ailleurs la même chose. Donc cette chose-là peut se concevoir.
Alors que vous, Nathalie Cabrol, vous pensez, je crois, exactement le contraire, puisque vous citez votre maître, Carl Sagan, qui disait, bien sûr, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Nous penser que nous ne sommes seuls dans cet océan cosmique avec 300 millions d'exoplanètes potentiellement situées dans une zone habitable est tout simplement une absurdité statistique. Expliquez-nous votre position.
Oui, l'absurdité statistique, c'est un petit peu un raccourci. Et on me le rappelle assez souvent, mais ça couvre plus que le nombre. Ce que je voudrais d'abord dire, avant de rentrer dans le détail de ça, c'est qu'il y a un grand nombre de choses avec lesquelles on est d'accord avec Jean-Pierre. La première, c'est que c'est pas tellement le fait... La science n'est pas là pour nécessairement apporter des réponses, elle est là pour articuler des meilleures questions. Et ça nous donne une meilleure vision du monde et ça nous permet aussi de chercher dans des voies différentes. Ce que là aussi où je le rejoins, c'est que personnellement, en avançant à la recherche de la vie ailleurs dans l'univers, ça m'a permis personnellement de regarder à comment on la cherche aujourd'hui, qui est une version de cette recherche très anthropocentrique, très géocentrique, et qui nous confine dans un certain regard à essayer de trouver une autre Terre, c'est-à-dire pas une Terre comme la nôtre. Je n'irai pas jusqu'à ce que dit Jean-Pierre en disant qu'on cherche la même chose que nous. La même chose que nous, probablement ailleurs, ça n'existe pas, il a raison. Statistiquement, c'est impossible d'avoir exactement la même Terre avec les mêmes gens, etc. Mais c'est pas en fait ce que l'astrobiologie cherche. Ce que l'astrobiologie cherche, c'est des mondes vivants. Et donc la distinction ici, c'est de se dire que bien peut-être la biochimie qui est la nôtre n'est pas forcément la seule biochimie possible, et qu'il y a peut-être des alternatives ailleurs. Mais personnellement, je suis pas biochimiste. Ce qui m'intéresse davantage, c'est d'essayer de penser à la recherche de la vie dans l'univers, non pas à son origine. Et je pense que l'origine, elle est très liée justement à la biochimie qu'on connaît sur la Terre, c'est-à-dire il faut de l'eau, il faut être à une certaine distance d'une étoile, il faut ceci, il faut cela. Ce que j'aime à penser, c'est à penser à la nature de la vie. Et pour moi, c'est très difficile à l'heure actuelle de comprendre comment on peut distinguer la vie de l'univers dans lequel elle évolue. Il y a un Big Bang, il y a l'astrobiologie actuelle a tendance à séparer la vie et le non-vivant, comme si la vie apparaissait par un coup de baguette magique à un moment donné dans l'univers, alors que si on pense à la nature de la vie, on commence à regarder à la vie peut-être comme une propriété émergente de l'univers à un moment dans l'espace et dans le temps. Et donc, si on essaye de s'engager sur cette hypothèse-là, il est tout à fait possible que notre biochimie soit simplement un exemple de biochimie possible ailleurs dans l'univers. Alors évidemment, ce sera pas d'autres terres exactement comme la nôtre, ce sera probablement pas d'autres vies comme la nôtre, mais ce sera peut-être autre chose.
Jean-Pierre Bibring, vous réfutez l'idée d'une deuxième humanité ou vous niez la possibilité de multiples vies, même simples, hein, on oppose vie simple type microbe, je parle sous votre contrôle, hein, à la vie complexe dite intelligente dans l'univers?
Alors, plusieurs choses. La première, c'est effectivement, comme ça a été dit dès lundi dernier, il faut répondre avec humilité à tout ce genre de questions. C'est vrai que le propre de la science, c'est d'avancer par paliers et qu'il n'y a pas de certitude. Donc, c'est pas que je nie ou je pense, etc. Ce qui me semble, en revanche, le résultat de tout ce qui se fait depuis quelques années, quelques décennies au plus, c'est que l'observation des mondes planétaires, qu'est-ce qui fait que la Terre est devenue la Terre? Qu'est-ce qui fait que la Terre n'est pas devenue Mars, que Vénus est différent, que le système solaire est différent de tous les autres systèmes que maintenant on commence à découvrir, il y en a 5000, c'est que non seulement cette diversité et le nouveau paradigme, comme je le disais tout à l'heure à propos des humains sur Terre, ce qui est important, c'est qu'il n'y en a pas deux pareils et qu'il y a beaucoup de richesses là-dedans à exploiter, quelque part, dans le bon sens du terme, mais c'est qu'en plus, on commence à comprendre les raisons qui font que la Terre est devenue la Terre, différente de Mars, etc. C'est que chacun... Et il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. C'est pas que la Terre est devenue mieux que ou moins bien que. Il n'y a pas de supériorité. C'est que le chemin d'évolution, c'est ça qui est nouveau. On commence à comprendre ce qui fait que dans l'évolution cosmique, on peut dire, des planètes se forment. Mais les planètes elles-mêmes, c'était des objets qui gravitaient autour du Soleil. Maintenant, on sait qu'il y a énormément de différents processus qui vont faire des bifurcations et qui font qu'à un moment donné, au sens darwinien du terme, il y a un tel champ de possibles que c'est le contexte qui va décider est-ce qu'on fait un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Et au titre des propriétés de la Terre que l'on voit maintenant, comme sa couverture en nuages, le fait qu'il y a des océans stables, le fait que l'atmosphère est comme ci plutôt que comme ça, on commence à comprendre que le vivant est aussi une propriété très lié à l'évolution de la Terre, qui est couplé à cela. Ce qui ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas de l'évolution de la matière organique carbonée avec de l'hydrogène, etc. Mais ça veut dire que les acides qui vont être formés, les autres organes moléculaires qui vont être formés, dans les réactions particulières qui vont prendre place, ne vont pas donner ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire des organismes, avec ce qu'on pourrait appeler une propriété de la vie. Et juste pour terminer sur ce chapitre, il n'y a pas, de mon point de vue, une propriété du vivant. Il n'y a pas une propriété du vivant dont on pourrait dire « sur Terre, ça a pris cette forme et ailleurs, ça prendrait une autre forme ». La vie est la propriété de la chimie organique liée à l'évolution de la Terre. Donc quand j'ai dit que la vie ne peut pas exister ailleurs, c'est pas qu'ailleurs il n'y a pas d'évolution chimique, c'est comme si on disait le fait qu'il n'y a pas d'autres Terres fait qu'il n'y a pas d'autres planètes. Si, il y a Mars, il y a Vénus dans le système solaire, etc. Mais elles sont toutes différentes. Et on commence à comprendre l'origine de ces différences. Et quand on met tout ça bout à bout, on s'aperçoit qu'effectivement, la chaîne des réactions qui a conduit à ce que, qui caractérise le vivant, c'est-à-dire l'hérédité des structures acquises, ça a nécessité un nombre de réactions avec des bifurcations insensées qui ont été entièrement favorisées par le contexte, au sens darwinien à nouveau, qui fait qu'il y a des protéines, il y a etc., il y a le ribosome qui fait que voilà, c'est ça qui organise le vivant sur Terre. Vous changez un acide aminé, vous changez une base azotée, ben vous aurez autre chose, mais il n'y a aucune raison de l'appeler le vivant.
C'est difficile hein, pour nous, néophytes, parce que vous êtes de grands scientifiques, on a envie de vous écouter, on a envie de vous suivre, vous êtes assez convaincants, mais c'est assez difficile de se faire sa propre opinion. Alors moi, je me tourne vers Laurent Genefort, non seulement parce que Laurent Genefort suit très précisément, peut-être déjà comme être humain, mais aussi comme auteur de romans de science-fiction, toutes ces questions, tous ces débats scientifiques, pour vous demander, vous, quand vous entendez ces deux positions qui sont à la fois assez irréductiblement en désaccord, même s'il y a pas mal de points d'accord quand même, comme le disait Nathalie Cabrol, comment vous faites, vous, pour vous faire votre propre avis et pouvoir ensuite créer sur la base de la crédibilité scientifique vos propres personnages, vos propres situations?
Alors moi, j'ai tendance à suivre ce qui se dit justement, et notamment sur la chimie organique. Donc mes aliens sont procèdent de la chimie du carbone parce que c'est le plus vraisemblable. Le solvant, c'est l'eau parce que c'est le plus pratique. J'ai une sorte de principe de médiocrité qui fait que là où il y a de l'eau, là où il y a du carbone. Là où il y a de l'ensoleillement, c'est réuni pour voilà, c'est assez vraisemblable et ça me suffit moi en tant qu'auteur de science-fiction, ça me suffit. Mais la SF, elle procède aussi, c'est des expériences de pensée. Et par exemple, on trouve dans la science-fiction, par exemple, des définitions de la vie liées à ses fonctions. Et par exemple, il y a certains auteurs qui ont imaginé ce serait quoi la vie à la surface d'une étoile à neutrons. Donc ce ne serait pas organique. Ce serait pas évidemment la chimie du carbone, ce serait même pas chimique du tout en fait. On serait dans des relations de conservation d'énergie entre des forces qui ne sont pas des forces électromagnétiques.
Mais en quoi ce serait la vie?
Parce que ça répondrait à des caractéristiques qui sont la conservation de l'énergie, l'évolution, la transmission d'informations à l'intérieur de l'organisme lui-même, etc. C'est-à-dire ce qu'on définit, enfin ce que certains scientifiques définissent comme des caractéristiques propres à la vie. Voilà.
Oui, mais par exemple, ce que tu viens de définir là, ça se trouve dans énormément de systèmes qui n'ont rien de vivant, qui sont inertes. Quand une étoile se contracte, quand des planètes se forment, il y a conservation de l'énergie, il y a communication au même sens, etc. Ce que je mets en cause, c'est le fait qu'on essaye de caractériser le vivant par des propriétés qui ne sont en fait pas du tout caractéristiques du vivant.
Oui, possible.
Essaye de dire E.T. E.T.
E.T. Petit téléphone maison.
Mon Dieu, ça y est, il parle.
Maison.
L'intelligence extraterrestre existe-t-elle? Ce film qui a marqué des générations et qui continue d'en marquer, E.T. de Spielberg, dans ce film, les extraterrestres, enfin un en tout cas, venaient nous visiter. Or, on sait bien que depuis le paradoxe de Fermi en 1950, S'il y a des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà nous avoir rendu visite et ils ne l'ont pas fait. Donc où sont-ils donc? Et c'est la question que je voudrais vous poser, Laurent Jeunefort. Est-ce qu'il y a des théories dans la science-fiction qui expliquent pourquoi personne n'est jamais entré en contact avec nous?
Alors oui, le paradoxe de Fermi, c'est-à-dire si la vie est répandue dans l'univers, on devrait avoir déjà trouvé des indices, notamment...
C'est le grand silence à peu près. Hein,
notamment au niveau communication. Communication interstellaire via les ondes en fait, mais donc pas matérielle parce que de toute façon ça c'est très 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 peu probable quand même, mais au moins des signes. Et oui la SF elle a beaucoup arpenté ces théories là. Alors je vais pas les énumérer parce qu'il y en a vraiment des dizaines qui sont de plus en plus exotiques, hein, parce que c'est de plus en plus compliqué. Mais
en somme, ils sont là, mais on le sait pas.
Il y a l'hypothèse du zoo cosmique, c'est-à-dire où on a été isolé parce qu'on représente une menace. Alors on a été isolé. Mais ça, c'est plutôt rigolo, je trouve.
C'est plutôt rigolo. Ils existent, mais ils n'ont pas communiqué. Ils préfèrent nous laisser tranquilles.
Ce côté, etc. Les aliens cachés m'a toujours assez étonné.
Il y a une autre question que j'ai envie de vous poser, alors à tous les trois cette fois, pour prendre peut-être un peu de distance, c'est par rapport à l'intelligence et par rapport à la vie, c'est au fond, qu'on soit seul ou qu'on ne soit pas seul, quelles conséquences si on découvre vraiment, enfin si la science vous donne raison à vous, Jean-Pierre Brebring, ou à vous, Nathalie Cabrol, ça change quoi au fond? Pourquoi? À quoi ça servirait de savoir qu'on est seul ou on n'est pas seul, Jean-Pierre Brebring?
Non, mais vas-y, Nathalie.
Nathalie Cabrol.
Bon, je ne ferai pas de commentaires.
si, on a envie de savoir.
Ouais. Écoutez, il y a des... Je crois qu'on s'est déjà posé la question, Caroline, et j'ai fait plusieurs réponses à cette question. Il y a une réponse qui va être très, très cynique, et c'est pas la mienne, mais je vais la faire parce que je me dis que quand on voit les titres de journaux aujourd'hui, à quelle vitesse les gens passent d'une nouvelle à l'autre, peut-être que ça ferait la une des journaux pendant 24 heures et après on n'en parlerait plus. Mais plus sérieusement, du point de vue scientifique, personnellement et philosophique, Il y a deux choses qui sont importantes. Une qu'on a un petit peu effleurée, c'est qu'en fait, on est à la recherche de la vie dans l'univers, mais on n'a pas de définition, on n'a pas de définition consensus de la vie. Alors, avoir une perspective qui vient d'une civilisation qui a évolué complètement indépendamment de la nôtre, qui a sa propre vie sur l'univers, ses propres questionnements. Est-ce qu'une telle civilisation est passée par la philosophie? Ils ont évolué vers les religions? Quelle est leur vue sur la formation de l'univers? C'est quelque chose qui serait d'un très, très grand apport spirituel et intellectuel. Scientifiquement, bien évidemment, et technologiquement, il y a des tas de choses qu'on pourrait partager. Et peut-être aussi... essayer de comprendre comment une telle civilisation a peut-être navigué les eaux dans lesquelles nous sommes à l'heure actuelle, qui est cette adolescence technologique, et qui répond peut-être en fait au grand filtre et au grand silence. Une de mes hypothèses, c'est que il y a peut-être des tas de civilisations extraterrestres dans l'univers, mais arrive à un point où nous sommes à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on a développé beaucoup de technologies et beaucoup de sciences, on ne sait pas encore tellement l'utiliser et sans en comprendre les conséquences. Et donc, il y a une grande partie de ces civilisations qui ne deviennent pas des civilisations mûres, qui disparaissent alors qu'elles étaient en train d'accéder à l'espace. Donc, il y a peut-être un gap de génération dans ces civilisations et peut-être que d'autres civilisations sont beaucoup plus matures que nous et effectivement, nous n'ont simplement pas envie d'interférer avec nous. Bien sûr, c'est une vision complètement anthropocentrique, mais pour le moment, c'est tout ce qu'on a. Pour moi, ce serait quelque chose, ce serait déterminant spirituellement, philosophiquement, scientifiquement et technologiquement, parce qu'on aurait une perspective qui est complètement différente de la nôtre, qui vient d'une coévolution différente. En imaginant bien sûr que ce soit une connexion positive, que ce soit pas des extraterrestres agressifs.
Des grands méchants.
En espérant que ce soit un contact qui soit positif.
Alors vous le voyez pas, si d'ailleurs vous le voyez puisque vous êtes derrière votre écran, vous nous voyez Nathalie Cabrol, mais oui. J'ai comme l'impression que Jean-Pierre Brebring il trépigne un peu sur sa chaise.
Oui, non, mais Jean-Pierre, il trépigne tout le temps, c'est pas un problème.
C'est un alien.
Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'une grande partie de ce que tu dis revient en fait à des visions anciennes pour moi, qui consistent à dire, voilà, le vivant, c'est une propriété générique de l'univers. L'évolution dans l'univers passe du simple vers le complexe, de particules qui viennent des atomes, des molécules organiques, le vivant. Et on a construit comme ça des chemins conceptuels qui aboutissent avec une flèche qui est contrairement opposée à l'idée de Darwin, parce que le propre de l'évolution, c'est justement à tout moment, ce que je parlais des bifurcations tout à l'heure, il n'y a pas de direction favorisée, c'était tout le débat entre Lamarck et Darwin, et que précisément c'est le contexte qui décide. Donc la vie ne peut pas être un moment unique, génériquement déterministe de l'évolution. Mais pourquoi ça a été fait cela ? Ça a été fait pour que la vie apparaisse, à cause de la pluralité des mondes, comme un passage nécessaire de l'évolution, mais surtout parce que, à la fin du XIXe siècle, ça permettait de mettre sur cette échelle de complexification le cerveau humain au sommet. Et si possible, d'ailleurs, le cerveau de certains humains plus que d'autres, comme on le sait. Et pourquoi il fallait le faire ? Ben parce que l'homme a été détrôné de sa position centrale, par Copernic d'abord, puis par etc., etc. Donc, ça lui redonnait quelque chose. Et on a construit comme ça des échelles qui permettaient à l'homme de se retrouver ensemble. Et d'ailleurs, parmi ces échelles-là, parmi ces critères pour ces échelles, il y avait la conception de l'intelligence. Mais quand on y réfléchit, il n'y a pas de définition d'intelligence, et on l'a bien vu cette semaine, plus que de définition de la vie. Nous, la vie que les Grecs qui voyaient une opposition entre la vie et la non-vie, c'est-à-dire entre un arbre et une pierre, on ne va pas leur jeter la pierre, justement, parce qu'ils n'avaient rien pour comprendre qu'est-ce qui fait que la pierre semble immuable, éternelle, et que le reste vit jusqu'à mourir. Donc, on ne va pas mettre en cause, bien sûr, cette conceptualisation de la différence binaire. Moi, j'aime pas trop les choses binaires entre le bien, le mal, le beau, le laid, le normal, la normale, etc., et le vivant et le non-vivant. C'est une vision très réductrice aussi de notre mode de pensée, qui est très propre à notre propre histoire d'ailleurs, d'opposer les choses comme ça. Mais ça pose énormément de questions. Ça pose entre autres la question de savoir s'il y a un principe de vie, comment vous faites naître un principe de quelque chose qui ne l'a pas. Leibniz disait, on ne fait pas naître quelque chose du néant, mais Anaxo le disait aussi. Et donc, mettre nécessairement une échelle comme ça, où en plus on rajoute l'intelligence comme un des critères, en se disant au moins là on tient quelque chose que l'homme a, l'homme et la femme, mais que les animaux n'ont pas, ça ne va pas cette histoire-là. On sait bien qu'on peut fabriquer n'importe quel type d'échelle, et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que parmi les espèces qui nous entourent, il y a des échelles, il y a des espèces qui ont des centaines de millions d'années, qui ont survécu à toutes les extinctions. Est-ce que l'homme survivra à sa propre extinction ?
Nathalie Cabrol.
Oui, non, je voulais simplement intervenir parce que d'abord, je vois pas véritablement le lien de ta réponse, Jean-Pierre. Je comprends dans l'ensemble. D'abord, si tu connaissais bien ce que je fais, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que personnellement, je m'éloigne de plus en plus de cette dichotomie vivant et non vivant. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement difficile pour comprendre la vie. La seule chose, c'est que pour moi, ce que tu décris comme le vivant, c'est le vivant sur Terre. On peut l'appeler autrement, mais ce sera quand même du vivant ailleurs. Mais et pour revenir à l'intelligence comme la vie, comme aussi la conscience, on n'a aucune définition de ça, mais c'est pas pour autant parce qu'on a des organismes primitifs que je les considère pas comme intelligents. S'ils sont survécu jusqu'à présent, comme les cyanobactéries par exemple, il y a certainement une intelligence vis-à-vis de l'environnement. Mais simplement, la question était sur les civilisations extraterrestres et j'ai répondu à cette question-là. Pour le reste, c'est un débat beaucoup plus compliqué, mais je suis pas pour la dichotomie non plus.
Laurent Genefort.
Alors si les extraterrestres existent, déjà ça prouve que j'aurais misé sur le bon cheval en tant qu'auteur de SF. Mais maintenant, s'ils existent, en fait je suis assez d'accord avec Nathalie, c'est dans le sens que en tant qu'auteur de SF et étant fan de SF, la SF elle a accompagné ce décentrement de l'humain dont quelque part l'extraterrestre il représente une sorte d'aboutissement. C'est-à-dire qu'on a décentré l'humain de la création, après avec la découverte de la structure des galaxies, on a cessé de se décentrer du centre de l'univers, et l'alien, ça C'est aussi un décentrement par rapport au point de vue sur l'univers. On est le seul point de vue sur l'univers. S'il y a un observateur de l'univers, c'est que nous. Et imaginer des aliens, c'est imaginer qu'il peut ne pas y avoir un seul point de vue sur l'univers.
Mais ça peut aussi donner une responsabilité à l'homme, à l'être humain, de penser qu'il est seul dans l'univers. Donc il faut vraiment protéger cette planète-là, parce qu'il n'y en a pas deux. Puis Jean-Pierre Birmingham.
Oui, en fait, je me suis aperçu, bien sûr, immédiatement, que j'ai pas répondu à la question qui était posée. Être seul, qu'est-ce que ça nous change ? Je crois que ça change beaucoup de choses, pas simplement pour les scientifiques, par rapport aux questions que je posais tout à l'heure, mais plus largement que cela. Je pense que la vision qu'on peut avoir d'une Terre qui est limitée dans l'espace, limitée dans ses ressources, on le sait bien, mais qu'en plus, pour nous, c'est le seul endroit où on est, et qu'il y a une interaction permanente entre ce que l'on fait et notre propre environnement. Ça, c'est quelque chose que l'on est en train de découvrir quelque part, même si c'était en filigrane déjà avant. Le fait que l'évolution dépende autant, parce qu'il n'y a pas de déterminisme absolu encore, mais des événements qui se passent à un moment donné, qui vont modifier les choses, fait que l'activité de l'homme elle-même contribue à l'évolution de la biosphère. Quoi que l'on fasse, ce que l'on mange, ce que l'on achète, ce que l'on vote, etc., contribue à l'évolution. Donc, c'est pas vouloir ou ne pas vouloir y contribuer, on y contribue nécessairement. Nous sommes partie prenante de cela. Le décalage, le découpage qui est entre l'homme et la nature n'a pas de sens, bien sûr. Même si c'est au sixième jour de la Genèse que l'homme était, une fois que la nature était déjà là. Non. Il y a un écosystème global. Eh bien, par rapport à ça, ce que je me dis, en tout cas, c'est que, ce qu'apporte essentiellement l'astrophysique, d'ailleurs, les défis auxquels on assiste maintenant sont des défis d'ordre planétaire. Les choses se passent à l'échelle planétaire. On s'en rend bien compte. La vision de la Terre, maintenant, modifie tout. Il n'y a pas un endroit où il se passe quelque chose sans qu'on le soit au courant, maintenant. Ce n'est fini, le fait qu'il y avait des Terres étranges ou étrangères. Et les réponses doivent être aussi complètement planétaires. Et pour que la réponse soit planétaire, il faut effectivement qu'il y ait des révolutions dans l'intelligence, au sens de ce que l'on travaille cette semaine ici. C'est qu'il faut penser totalement différemment la manière dont les sociétés auront à répondre à cela. Et ça suppose de faire des changements essentiels de paradigme, parce qu'il faudra travailler effectivement ensemble. C'est pour ça que, en général, quand je fais des débats, je termine toujours par une idée qui m'est chère, parce que c'est notre pratique, surtout en astrophysique. Il faut non pas se protéger et se préparer à de la confrontation, mais de la coopération. Changer fondamentalement les relations que l'on va avoir. Mais sauf que, il faut le faire à des échelles maintenant qui sont des années, des décennies peut-être, mais pas plus. Donc c'est là qu'il faut vraiment qu'il y ait des révolutions de l'intelligence.
Et là, je crois que vous rejoignez Nathalie Cabrol. Nathalie Cabrol, qui d'ailleurs aime bien, je vais me permettre de vous citer, hein, qui aime bien une phrase que vous mettez toujours dans la signature de vos mails, qui est tirée de votre BD favorite Calvin et Hobbes, du dessinateur Bill Watterson. « Parfois, je pense que le signe le plus sûr de l'existence d'une vie intelligente ailleurs dans l'univers est qu'aucune n'a essayé de nous contacter. » Un grand merci à tous les trois.
La Nathalie seule chose Cabrol. Que je veux dire, Caroline, si je peux me permettre, c'est que j'aime bien taquiner Jean-Pierre parce qu'on a quelques désaccords, mais fondamentalement, je crois qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord. Mais je voulais absolument dire que j'applaudis complètement ce qu'il vient de dire pour terminer.
Voilà, vous vous retrouvez
complètement
là-dessus.
D'accord là-dessus.
Merci beaucoup, Nathalie Cabrol, astrobiologiste, directrice du Centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI. À l'aube de nouveaux horizons au seuil, c'est votre dernier ouvrage. Jean-Pierre Bibring, astrophysicien, auteur de Seul dans l'univers, point de la diversité des mondes à l'unicité de la vie chez Odile Jacob. Et Laurent Jeunefer, il y a trop de livres pour que je puisse les citer tous. Merci beaucoup. Figure de la littérature, notamment de science-fiction. C'est la fin d'ailleurs de ces rencontres de Pétrarque qui ont été préparées avec intelligence, soin et efficacité par Roxane Poulain, réalisées avec grand talent par Nathalie Salle. Merci aux formidables équipes techniques de Radio France, Sandrine Bréchaud, Thomas Robin, Jean-Benoît Tétu, Mathieu Leroy et leur stagiaire Valentin Croc. Merci aux non moins formidables équipes du Festival Radio France Occitanie Montpellier, Ève Angelric, Valentin Bénet, Karl Lang, Thibaut Morel et les personnes à l'entrée. Le festival commence lundi et dure jusqu'au 28 juillet. Merci à Sophie Méjean, rectrice de l'Académie de Montpellier, qui nous prête cette magnifique cour Soulages. Enfin, immense merci au public venu une fois de plus, très nombreux. Oui, ça y est, vous avez le droit d'applaudir. Excellent été à l'écoute de France Culture dans... un peu moins d'une minute, ça sera Arnaud Laporte et Affaires culturelles.